découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
Votre émission sur Nutri Radio vous est présentée par les laboratoires COPMED, experts en produits de santé naturelle.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
Bonjour Vincent.
Bonjour Fabrice.
Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi cette hésitation?
Je savais plus ce qu'il fallait dire.
Bah bonjour en fait.
J'ai eu un blanc. Bonjour aux auditeurs. Je ne savais pas si le micro était branché, c'est pour ça.
Oui, mais oui.
Bah, tout marche, tout est bien.
Tout fonctionne, oui. Parce que là, on est.
On est en vadrouille, oui.
On est, si vous voulez, les docteurs Vincent Renaud, t'as un tel degré de d'influence, de positionnement.
De notoriété, c'est ça?
De notoriété, de star system, qu'il veut même plus prendre le temps de venir à la radio. Il me dit, mais non, mais ton petit studio, appelle-moi quand t'as 1000 mètres carrés en haut de la tour Montparnasse. Et je lui dis, mais
j'ai
attention.
J'ai dit 300 mètres carrés.
300 mètres carrés.
Ouais, ça m'ira avec vue mère, parce que la tour Montparnasse, je m'en fous un peu.
Ah, on a une belle vue sur la tour Eiffel. Mais bon, voilà, il me met la pression.
Ah bah oui.
Donc maintenant, je suis obligé de venir
radio quand même, c'est devenu une radio de star.
Ouais, bah attendez.
Avec toutes les célébrités que vous invitez maintenant, c'est incroyable.
On peut faire ça, on peut se balancer des fleurs comme ça.
Ouais, ouais.
Vous êtes incroyable, vous êtes incroyable.
Vous êtes incroyable. Redites Fabrice. Mais les célébrités de star, mais vous êtes un journal.
Vous
faites partie aujourd'hui du star system et tout le monde s'arrache, Fabrice.
Bah, évidemment, et vous-même d'ailleurs.
Et on bosse un peu là. Pense que les auditeurs, ils n'écoutent pas Nutri Radio juste pour entendre des blagounettes. Moi, je suis pas Jérémy Ferrari, Arnaud de sa mère. Nous, on est là pour bosser.
On n'est pas sur Rire et Chanson, comme dirait l'autre. On embrasse tous ceux qui nous écoutent et qui sont des gens qui.
Et on embrasse Jérémy Ferrari, Arnaud de sa mère. D'abord, s'il reste des places, vous pouvez m'en inviter parce que tout est complet. Fabrice, vous n'avez pas une place pour moi?
Pour les spectacles?
Oui, le trio. Non,
je vais vous envoyer un lien YouTube.
Et Baptiste Caplin.
Alors,
de quoi on parle?
Maintenant, on connaît au moins votre humour.
Ben oui, j'aime bien tout. Moi, j'aime bien les humours un peu cassants. Ferrari, il y va un peu fort. Le sketch sur l'homéopathie, aimé son sketch sur l'homéopathie. J'avoue qu'honnêtement, il a un peu assassiné l'homéopathie.
Peut-être
dans ce
que
sketch.
Je vous connais. C'est pas un placement de produit déguisé, ça, cette histoire?
Et si on parlait?
C'est pas pour avoir des petites voitures, non? Bon. Alors,
pas du tout.
On va remercier notre partenaire sur ces émissions. Toujours pour cette saison. Laboratoire COPMED, expert des produits de santé naturelle et de la micronutrition. Ils ont une équipe incroyable. On les embrasse tous très fort. Des produits de qualité, mesdames, messieurs, parce que sachez-le que nous, les partenaires sur Nutri Radio, c'est un mariage, c'est un pax. On se veut mutuellement et croyez-moi, on refuse certains labos qui veulent s'acheter de la notoriété à bon compte, je veux le dire. Donc ce sont des partenaires engagés et voilà, qu'on remercie de nous soutenir aussi dans notre démarche de démocratisation et de porter à la connaissance des auditeurs tous ces sujets de prévention, santé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on va parler de la
du syndrome
de Julie Pradine. On l'embrasse.
Ah, bonne liaison. Je vois que là, il a un blanc. Non, j'ai un sujet brûlant dont je voulais parler. Ça n'avait pas l'air de brancher beaucoup Fabrice parce que c'est un sujet qui touche les femmes. Lui, il aurait voulu un truc, je ne sais pas.
Non, c'est pas ça. C'est parce que je me dis, est-ce que vous êtes légitime pour en parler? Mais je vous écoute. Allez-y.
Je suis très légitime.
Allez-y. Maintenant, vous avez. Tenez, voici la pioche, voici la pelle. Allez-y.
Alors, le syndrome prémenstruel, plus communément appelé dysménorrhée. Oui, je voulais en parler parce que c'est un problème qui touche près d'une femme sur deux et dont les médecins sont souvent désarmés. En médecine conventionnelle, moi je sais que je n'ai absolument jamais su comment traiter ou prendre en charge ce fameux syndrome prémenstruel. Et je voulais qu'on fasse une, peut-être deux émissions sur ce fameux SPM. Déjà parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est, donc je voulais revenir sur la définition. On sait très bien que les cycles menstruels de la femme se terminent par ces fameuses menstruations et évidemment, à quelques jours avant ces fameuses règles, il existe des désordres à la fois psychiques et physiques très importants. qu'on a classifié sous le nom de SPM. Mais il ne faut pas oublier que c'est une classification qui est très récente. Il n'y a que depuis 1952 que le SPM, syndrome prémenstruel, est réellement reconnu par le corps médical. Ça voulait dire qu'avant, une femme qui avait des règles douloureuses et qui avait des troubles émotionnels au moment de ses règles était classifiée d'hystérique. Et oui, les femmes n'étaient pas, pour elles, d'avoir leurs règles tous les mois. Déjà, c'était une souffrance, c'était quelque chose d'assez douloureux physiquement et psychiquement. Et en plus, elles n'étaient pas reconnues comme réellement malades par rapport à cette problématique. Il a fallu attendre 1952, ce qui est quand même, je trouve, tard. C'est grâce à Green et Dalton qui, en 1953 précisément, ont défini ce qu'était le syndrome prémenstruel comme un ensemble de symptômes somatiques et psychiques apparaissant de manière cyclique. Donc ça, c'était la première définition. Alors c'est vrai que ce SPM, il dénombre une trentaine de symptômes, donc c'est difficile de savoir est-ce que c'est un vrai SPM, mais la cyclicité des symptômes définit le syndrome prémenstruel. Quand ça revient tous les 28 ou 30 jours, c'est un SPM. Donc ça, c'était quand même une révolution, et ensuite, après, les définitions se sont affinées. Alors on classe en gros, quatre groupes de SPM. Il y a les SPM avec rétention d'eau. Donc là, on va utiliser des plantes plutôt qui vont agir sur le drainage, l'élimination, la fonction rénale et des plantes un peu diurétiques. Il y a les SPM qui seront plutôt avec des troubles cutanéo-muqueux, de l'acné, la peau sèche et souvent des problématiques dermatologiques pas sympathiques, dermatose, eczéma, psoriasis qui peuvent apparaître. Il y a des SPM à prédominance douloureuse avec des douleurs pelviennes, des maux de ventre, des ballonnements, des troubles digestifs. Et enfin, il y a les SPM qui sont majoritairement avec des troubles qu'on appelle dysphoriques prémenstruels. Ça s'appelle TDPM, troubles dysphoriques prémenstruels, allant jusqu'à la dépression, voire avec des idées noires. Donc, c'est quand même très important. Et depuis 1994, le TDPM, troubles dysphoriques prémenstruels, est rentré dans la classification des troubles mentaux. Vous savez, le fameux classement DSM que les psychiatres utilisent, et il est rentré dans le DSM-4, introduit comme des troubles émotionnels cycliques apparaissant tous les 28 jours, qui touchent environ 8 à 10% des femmes. Donc une femme sur deux souffre de syndrome prémenstruel, dont presque 10% ont des troubles psychiques importants. Et est-ce que vous savez quelle était finalement la fonction de ce SPM, cher Fabrice, sur le plan évolutionniste ?
Non, pas du tout, on va pas tourner autour du pot, non.
Non. Eh bien, sur le plan évolutionniste, mais c'est très sérieux ce que je vais vous dire.
Oui, mais j'attends.
C'est qu'une femme qui avait ses règles, c'est une femme qui n'avait pas été fécondée. Mmh. Et donc, le partenaire n'était pas bon. Et pour rompre l'unité du couple, la femme qui avait ses règles devenait potentiellement colérique et irritable et changeait de partenaire pour aller chercher un partenaire beaucoup plus fécond. C'était quand même très féministe, cette théorie. Nous, les hommes, finalement, on était juste là pour mettre notre graine et puis, ah, j'ai pas d'enfant, ben casse-toi, j'en prends un autre. Incroyable.
Je suis abasourdi par ce que vous venez de me dire.
Alors, théorie évolutionniste qui a été effectivement établie par le professeur Fischer, qui est une grande spécialiste de ces théories-là. Moi, je trouve ça toujours rigolo de savoir pourquoi. C'est anecdotique, hein, on est sur la radio. On veut du fun et du fond. Donc, on met un peu de fun.
Mais non, mais c'est vrai, c'est intéressant, cette théorie-là. Mais elle a fait long feu, non ?
Elle a fait long feu.
Elle a fait long feu, c'est-à-dire que c'est loin, ça.
Oui, c'est loin, c'était les chasseurs-cueilleurs.
Voilà,
Oui, mais il y a certaines ethnies dans certains pays où c'est les femmes, je ne sais plus dans quelle tribu, je ne sais pas si en Amazonie ou aux Philippines.
Les Oupikans.
Les Oupikans. Les Oupikans, du Yakatukan.
Incollable sur les tribus d'Amazonie, je peux vous
dire. Et je sais que, justement, les femmes changent de tente en tente dans les tribus indiennes jusqu'à ce qu'elles trouvent le partenaire qui pourra les mettre enceintes. Ah oui, bah, c'est logique.
Il y a des clubs comme ça à Paris.
Mais ça, c'est pas pareil. c'est différent. Bon, allez, coupez l'antenne.
On va faire une pause. Et on revient. On revient sur le sérieux. C'est vous qui m'avez voilà, excusez-moi, moi je suis là pour faire des bons
mots. Non, mais c'est toujours Fabrice, il fait du mauvais esprit.
Toute petite pause, mesdames, messieurs, dans le respect le plus total de la musique et de l'harmonie que nous diffusons dans un instant. Il y a le docteur Vincent Renaud qui va revenir pour nous parler donc très sérieusement du SPM. Il avait commencé très sérieusement. Petite digression pour prendre une petite bulle d'oxygène. Après, on replonge et vous allez nous expliquer si
dans le dur.
Pourquoi d'ailleurs il touche certaines femmes de manière très très forte et d'autres pas du tout. Est-ce que c'est une question d'hormones? Est-ce que c'est une question d'hormones? On en parle dans un instant avec le docteur Vincent Renaud.
A tout de suite.
En plus de 30 ans, les laboratoires COPMED se sont forgés une réputation inégalée dans la formulation de produits de santé naturelle. Devenus experts notamment en micronutrition, ils proposent aujourd'hui une gamme complète, innovante et 100% française qui répond à tous vos besoins. Laboratoire COPMED, l'exigence d'une très haute qualité au service de votre santé. Pour votre santé, bougez plus.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
Le docteur Vincent Renaud sur Nutri Radio qui voyez, vous avez deviné dans quel endroit il sortait quand il allait du côté de Paris.
Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Paris. Hein. Chez nous, sur la Côte d'Azur, il y a des clubs aussi. Hein.
Oui, on parle, on divague et il me confiait là que voilà. Non, pas du tout. Non, il est très sérieux. C'est moi qui.
Non, pas de fausses informations.
Non, mais c'est bien.
Mon fan club va être très déçu.
On est dans la taquinerie, mesdames, messieurs. C'est vraiment, vous le savez, si vous êtes habitué à ces émissions, c'est du second, voire du troisième degré. Et on parle là très sérieusement de ce SPM, ce syndrome prémenstruel. Et je vous demandais d'ailleurs, ce syndrome qui touche certaines femmes de manière très sévère et d'autres pas du tout, est-ce que c'est qu'une question d'hormones? Est-ce que c'est une question d'hormones? Est-ce que c'est que ça?
Non. On va dire qu'il y a trois axes sur lesquels on définit ce qu'on appelle la physiopathologie en médecine. Il y a l'axe hormonal, petit 1, il y a la neuroinflammation. Et enfin, le troisième, c'est l'axe neuromédiateur, c'est-à-dire l'axe GABAergique, c'est-à-dire les troubles de certains neurotransmetteurs, en particulier sérotonine et GABA. Donc ça touche trois piliers. Et c'est ce qu'on va expliquer durant cette émission, ou peut-être une deuxième émission, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce fameux SPM. Déjà, quels sont les symptômes du syndrome prémenstruel et à quel moment ils apparaissent? Donc, on sait classiquement qu'un cycle menstruel d'une femme, il y a trois périodes. Il y a la phase folliculaire, qui est la phase où les follicules vont maturer jusqu'à la ponte ovulaire. Ensuite, il y a la phase ovulatoire. Un des follicules, surtout ceux qui ont mûri, va pondre un ovule. On arrive à l'ovulation. Donc, on a des symptômes, d'ailleurs, très, très spécifiques de l'ovulation. Les femmes surveillent leur cycle menstruel. Il y a des petites applications pour savoir un petit peu où elles en sont. Et au niveau de la ponte ovulaire, elles vont avoir des changements du comportement, de l'humeur, mais surtout de la glaire cervicale, de la température. Il y a plein de petits symptômes qui permettent aux femmes de savoir qu'elles arrivent en ovulation. Et ensuite, la troisième phase, donc folliculaire, ovulation, c'est la troisième phase, c'est la phase lutéale. C'est la phase où majoritairement, c'est la progestérone qui sera dominante, alors que la phase folliculaire, c'est les œstrogènes qui sont dominantes. Sous l'effet de la FSH, Folliculing Stimulating Hormone, dans la première moitié du cycle, d'où le nom de phase folliculaire, et dans la troisième partie du cycle, la phase lutéale, sous le contrôle de la LH, hormone lutéotrope, LH, luteing hormone, qui régule la progestérone. Et le syndrome prémenstruel apparaît 7-8 jours avant les règles, les fameuses menstruations. Hein, lorsque les femmes vont avoir cette hémorragie de libération, de l'évacuation finalement d'un œuf qui n'aura pas été fécondé finalement, c'est pour ça que cette théorie évolutionniste est intéressante. Et vous allez avoir une semaine avant ces fameuses règles des symptômes qui vont apparaître. Les mastodynies, ça veut dire les seins gonflés, mal dans les seins. On va avoir des migraines cataméniales, ça s'appelle. Ça, c'est extrêmement désagréable. Des troubles cutanés, apparition d'acné, des maux de ventre, des ballonnements, des douleurs utérines, des douleurs dans les ovaires, une prise de poids, et oui, des compulsions sucrées, des fringales, on s'appelle craving, envie de bouffer, irritabilité, hypersensibilité émotionnelle. Là, il ne faut pas chatouiller madame quand elle est évidemment en période prémenstruelle, etc., etc. Donc, on a des signes comportementaux, émotionnels et physiques à définir. Je crois que j'ai à peu près tout dit, mais c'est le plus important, c'est effectivement de savoir que ça apparaît une semaine avant les règles. Alors, il y a des femmes, ça démarre dès l'ovulation. Il y a des femmes qui ont des SPM qui démarrent dès le 14e jour du cycle. En gros, un cycle, il dure 28 jours. C'est une moyenne. Hein. Il y a des femmes qui ont des cycles courts, des femmes qui ont des cycles longs. Mais en moyenne, c'est 28 jours. 14 jours, c'est la période de l'ovulation. Et en général, on commence à prendre les compléments alimentaires pour le SPM à partir de l'ovulation jusqu'au premier jour des règles. Normalement, les règles, les saignements classiques, ça dure une journée, voire deux journées. Sauf dans les cas de ce qu'on appelle les SPM secondaires, dont je vais parler après. Mais les fameux syndromes prémenstruels primaires de la jeune fille jusqu'à la première grossesse, la particularité, c'est que ce SPM, il va en diminuant avec le temps. c'est que les femmes, les jeunes filles vont avoir des syndromes prémenstruels assez prononcés jusqu'à ce qu'elles arrivent à la grossesse et après ça s'atténue. Et ça revient paradoxalement en préménopause, 4-5 ans avant la ménopause. Mais ça, c'est pour le SPM primaire. On va voir qu'il existe des syndromes prémenstruels secondaires qui sont dus à une maladie sous-jacente comme l'endométriose en particulier. Donc, il faut bien faire la différence entre le SPM primaire, qui est physiologique chez la plupart des femmes, avec une intensité qui varie selon le climat hormonal, selon le climat inflammatoire, le terrain immuno-inflammatoire, selon le terrain aussi des neuromédiateurs, du GABA et de la sérotonine. Et à partir de là, on a défini d'ailleurs 4 variants du SPM. Il y a les variants, on les appelle A, le SPMA comme anxiété, avec souvent une prédominance d'anxiété, d'irritabilité, d'insomnie. On appelle le SPMH lorsqu'il y a des troubles d'hyperhydratation, gonflement, rétention d'eau, prise de poids, douleur mammaire. Le SPMC comme craving, c'est plutôt des femmes qui auront des grosses compulsions alimentaires et particulièrement des envies de sucre, 7 jours avant les règles. Et enfin, le SPMD avec plutôt des femmes très dépressives, avec parfois des idées noires. Donc ça, c'est dans le SPM primaire, donc c'est très important. Je vous ai dit, il y a 4 scénarios possibles du SPM. Il y a des femmes qui ont un SPM qui dure entre 5 et 7 jours avant les règles. Il y a des femmes qui vont avoir des SPM à l'ovulation, puis ça se calme et ça revient au moment des règles. Il y a des femmes qui vont avoir un SPM pratiquement de l'ovulation jusqu'aux règles. Et ça, c'est assez pénible. Et des femmes où ça apparaît dès le 17e, 18e jour du cycle jusqu'aux règles. Donc, il y a 4 scénarios possibles. Alors, et c'est très important parce que c'est ça qui va conditionner la prise de compléments alimentaires et de savoir quelles plantes on va utiliser par rapport au terrain du SPM.
Alors, le diagnostic, il repose essentiellement sur les symptômes.
Exactement.
Pourquoi il n'y a pas de biomarqueur fiable aujourd'hui ?
Aucun biomarqueur fiable, parce que c'est difficile à analyser sur le plan de la biologie. Oui, on pourrait analyser la progestérone. On sait que le SPM, classiquement, c'est un effondrement de la progestérone qui va avoir des répercussions sur les autres hormones, en particulier l'aldostérone, la prolactine.
Ou puérotéen.
Et l'hyperœstrogénie. Bon, excusez-moi, les auditeurs, ils ne me voient pas. Alors,
allez-y, non, mais je vous dénonce, justement, c'est horrible ce que je fais, parce que les auditeurs ne vous voient pas, mais moi, je le dis. Et là, ils me rotent à la tête.
C'est parce que j'ai bu de l'eau gazeuse.
Ah oui, bah.
Attention à l'eau gazeuse. Alors,
SPM, où vous avez parlé de troubles dysphoriques prémenstruels.
Oui,
où est-ce qu'on trace la frontière et comment on ne pas médicaliser à outrance, justement?
Exactement. Aux États-Unis, les TDPM, les troubles dysphoriques prémenstruels, sont traités par de la fluoxétine, qui est un antidépresseur connu. Ça, c'est tout à fait scandaleux, puisque c'est rentré au tableau de classification DSM-4. Et donc là, il y a des dérives sur ces médicaments. Et les femmes, en deuxième moitié de cycle, sont sous antidépresseurs aux États-Unis. C'est connu. En France, je ne sais pas si ça existe. Moi, je n'ai jamais vu de femmes sous antidépresseurs au moment des règles, mais ça pourrait arriver un jour. C'est ça dont il faut se méfier. Donc, c'est à peu près 8 à 10% des femmes qui souffrent de ces troubles dysphoriques. Après, les signes d'émotivité, d'irritabilité, d'impatience, on ne va pas les rentrer dans les troubles dysphoriques. C'est-à-dire que globalement, une femme qui a un SPM, elle a de la rétention d'eau, elle a mal au ventre, elle a les ovaires qui lui font mal, elle a la poitrine qui fait mal et elle a des hémorragies et elle ne se sent pas bien. C'est sûr qu'elle n'a pas un super moral. Classiquement, au moment de l'ovulation, vous avez plutôt la dopamine qui domine. Donc vous êtes on part en voyage, je vais passer mon permis moto, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. On est plein de projets. Au moment de l'ovulation, la femme a une libido débordante. Forcément, c'est la période de reproduction. Donc elle a l'ovulation. Elle a la libido, elle a plein de projets, elle se fait belle, elle se maquille, elle est contente, elle veut sortir, elle va aller en boîte de nuit avec ses copines, etc. Donc il y a vraiment une dysphorie, mais une euphorie naturelle liée aux œstrogènes qui vont booster la dopamine. La deuxième moitié de cycle, lutéal, ça diminue un peu, il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de fécondation. Les œstrogènes diminuent et normalement la progestérone prend le relais et c'est une hormone un peu anxiolytique, GABAergique la progestérone, et ça permet de relâcher et de détendre. Et classiquement, les femmes qui ont un SPM, finalement, ont un taux de progestérone qui va chuter un peu trop tôt. Ce qui fait qu'elles vont se retrouver en hyperœstrogénie relative. Et donc, elles ont encore une petite imprégnation d'œstrogène, mais surtout le GABA qui chute, la dopamine qui chute et le moral qui chute. Et donc, du coup, au bout de 10-15 jours après l'ovulation, ça va être plutôt chéri, bon, ce soir, on reste à la maison, on se regarde une série, et on se fait soirée pantoufle. On n'a plus du tout envie de grimper au rideau et de partir en voyage à l'autre bout du monde. Donc l'humeur change, l'évolution. Et là, on n'est plus sur un climat normalement un petit peu sérotonine. Sauf que la sérotonine, elle est contrôlée par la progestérone. Donc ça veut dire que si vous avez un effondrement de la progestérone et qu'en plus votre sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, on a envie d'être zen, cocooning, on a l'ocytocine qui est là, on a toutes nos hormones pour se sentir bien. Si la progestérone s'effondre trop vite, ben on a le moral qui va un peu chuter. La sérotonine chute, la dopamine a déjà chuté depuis l'ovulation, et on se retrouve dans une période où tout est nul, on s'engueule avec son mari pour un... je sais pas si vous laissez traîner vos vieux slips et vos chaussettes chez vous, Fabrice. Alors, et que votre femme vous tape dessus et vous engueule quand vous laissez traîner vos affaires.
Je ne fais jamais ça, monsieur. Jamais
ça. Moi, je sais que...
Vous, par contre, si, on m'a dit.
Oui, je laisse des fois... Oui.
On m'a dit, la fois passée, je suis venu chez vous et je demandais à votre compagne, il est où, Vincent? Il suit les slips, elle m'a dit.
Bon, alors. C'est pas vrai, je range mes slips dans la benne. Mais c'est vrai que, je sens qu'en période de prémenstruation, dans cette phase du syndrome prémenstruel qui dure 5 à 10 jours, il ne faut pas que je laisse traîner trop d'affaires, il faut que je range ma chambre, il faut que je fasse un peu le ménage, il ne faut pas que je, je la vexe.
Alors, écoutez, Vincent.
Les femmes sont beaucoup plus susceptibles dans cette période-là que après les règles ou au contraire, en phase folliculaire, au contraire.
Combien de temps ça dure ce SPM ?
Entre 5 et 7 jours.
5 et 7 jours. Et vous avez dit tout à l'heure que ça pouvait être sous-jacent à une autre pathologie comme l'endométriose. Est-ce que donc ça veut dire que les femmes qui ont un SPM, après elles enchaînent 5 et 7 jours difficiles et après l'endométriose, c'est quand même une période qui est extrêmement...
Alors l'endométriose déjà, alors, il faut faire la différence entre les dysménorrhées ou SPM, c'est à peu près la même chose, primaire et secondaire. Là, on est dans l'endométriose, c'est des SPM secondaires à une pathologie sous-jacente. Et donc là, les symptômes sont différents. Il va y avoir ce qu'on appelle les dyspareunies, les dyschésies. Alors, dyspareunie, c'est douleur au moment des rapports. Alors, il va y avoir des dysuries, ce qu'on appelle les cystites interstitielles. Il va y avoir des signes digestifs très violents, intolérance alimentaire, syndrome de l'intestin irritable. Il va y avoir des symptômes... En fait, c'est pratiquement toute la durée du cycle menstruel que la femme va souffrir. Avec des hémorragies beaucoup plus abondantes que dans le SPM classique, elles perdent énormément de sang, souvent avec une ferritine qui s'effondre. Et c'est surtout des symptômes qui s'aggravent avec le temps, alors que le SPM primaire, au contraire, il va en s'améliorant avec le temps, avec une rechute à 45 ans au moment de la préménopause. Donc c'est ça qui fait la différence. Et surtout, le SPM secondaire apparaît plutôt après 30 ans, 25-30 ans. Le SPM primaire, il apparaît dès les premières règles, ce qu'on appelle les ménarques. La femme est arrivée à cette puberté entre 12 et 15 ans, et donc c'est là qu'elle va développer les premiers syndromes prémenstruels.
Alors, vous allez nous donner... La semaine prochaine, les micronutriments d'intérêt. Qu'est-ce qu'on peut faire en micronutrition? Quelles sont les plantes aussi qui peuvent aider à soulager ces symptômes, en sachant que, et on va le dire en anticipant, mais non, on le dira la semaine prochaine.
Il va y avoir trois, c'est beaucoup la phyto. La phyto a énormément progressé, il y a énormément de travaux et de publications pour travailler sur les trois axes. On va parler des plantes à action hormonale, les plantes à action sur la neuro-inflammation, plantes et composés phytoactifs, et les plantes à action sur les neuromédiateurs, sur le GABA et sur la sérotonine en particulier.
Avec une vraie efficacité.
Une vraie efficacité et certains oligo-éléments en particulier. On parlera un peu du magnésium parce qu'il a une vraie action sur la contraction de l'utérus. Hein. Le magnésium, c'est vraiment antispasmodique, mieux relaxant et marche très bien dans le SPM aussi.
Alors, on va en parler la semaine prochaine. Et je disais que ces informations ne se substituent pas à un avis médical ni à un traitement. Et d'ailleurs... On va vous le répéter aussi de plus en plus, car les compléments alimentaires, tout ce qui est micronutrition, phytothérapie, ça fonctionne très bien. Mais parce que c'est efficace, il y a aussi des mésusages et des dangers en cas de mauvaise utilisation. Donc toujours s'encadrer d'un professionnel de santé qui va vous permettre de faire les bonnes analyses, les bons diagnostics et les bons traitements et de faire quelque chose de personnalisé qui vous suit pour que ce soit pas n'importe quoi. Vous n'allez pas en supermarché ou dans un truc, acheter vos compléments parce qu'il y a la voisine ou le voisin ou quelqu'un qui vous a dit que nous, on vous donne des informations et avec ces informations éclairée, rapprochez-vous.
Et aujourd'hui, de toute façon, les compléments alimentaires sont très réglementés. Il y a un réglementaire très rigoureux, ce qui est plutôt rassurant. Ce qui veut dire qu'évidemment, on ne peut pas prendre n'importe quoi, n'importe comment.
Et on lutte contre la désinformation, mesdames, messieurs, et contre les mauvaises pratiques.
Voilà, n'achetez pas sur Internet sans connaître l'origine des plantes, les allégations, les réglementaires. On voit de tout et n'importe quoi sur Internet, attention.
Et surtout, faites, quand vous démarrez une complémentation, une supplantation, faites-le accompagné
d'un professionnel,
professionnel de santé. Allez, santé. Bon, merci beaucoup. Cette émission sera, sera dispo tout de suite en podcast sur nutriradio.fr. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, Vincent.
Au revoir, Fabrice.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.